dans un CEDIC ou autre? Non? Personne qui avait un ticket? Non? Là-bas peut-être? Non? Numéro 300? Bon. Ok. Alors. Voilà, donc c'est mon tour ce matin. Donc c'est une joie de pouvoir être ici, d'essayer de partager quelque chose avec vous. Ah, il y en a qui partent en plus. Hein. Donc ça, c'est ceux qui ne sont pas contents, c'est ça qui, Voilà. Heureusement, il y en a plus qui restent, c'est agréable. Alors, j'aimerais lire deux textes. Le premier se trouve dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. Je comprends que vous avez dû faire des travaux tout à l'heure, effectivement, ça tangue un peu, mais bon, si ça tombe, ce sera, vous êtes témoin, si ça tombe, ce ne sera pas de ma faute, hein, ou pas beaucoup. Donc 2 Thessaloniciens au chapitre 2, et après nous regarderons, alors vous pouvez déjà le trouver, comme ça vous n'aurez pas du mal à, vous ne perdrez pas trop de temps. Après nous regarderons rapidement dans Jacques, chapitre 5, les versets 13 à 20. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 sera le texte principal, mais nous irons aussi rapidement dans Jacques chapitre 5 versets 13 à 20. Alors nous allons lire d'abord ici 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous vous demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore Dieu, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Puis nous lirons aussi donc dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, les versets 13 jusqu'à 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et nous pouvons même regarder un texte dans Romains au chapitre 1, Romains au chapitre 1. Au verset 18. Il nous est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Alors, avant d'en venir à ce texte de 2 Thessaloniciens, j'aimerais insister sur ce que la Bible nous dit de ne pas retenir la vérité captive. C'est dit dans Romains au chapitre 1, au verset 18. Là, dans Jacques, il nous est dit à la fin, si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et sans vouloir abuser de ces textes, parce qu'il parle de sujets bien précis, l'un parle de la vérité, dans Romains il parlait de la vérité de Dieu, qu'il y a un seul Dieu, qu'il est puissant, qu'il est différent des idoles, parce que le texte de Romains, on n'a pas le temps d'approfondir, mais quand il parle de la vérité captive, c'est cette vérité, il y a un seul Dieu, il n'est pas une idole, il n'est pas une statue, c'est cette vérité-là. Dans Jacques, c'est un peu moins clair de ce quoi il parle, probablement de vérités qui ont un lien direct avec le salut, puisque Jacques dit, si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, il sauvera une âme de la mort. Donc probablement quelqu'un qui a commencé à nier Jésus-Christ, à dire peut-être que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, ou qu'il n'y avait pas de salut en Jésus-Christ, je ne sais pas exactement ce que Jacques avait en tête à cette époque, je crois que nul d'entre nous le sait exactement, en relisant l'Épître on pourrait avoir une idée plus précise, mais en tout cas la Bible met bien l'accent sur l'importance de la vérité, et l'importance de connaître la vérité, l'importance de diffuser la vérité, elle met bien l'accent aussi sur le fait que le père du mensonge, eh bien, c'est Satan, c'est le diable, ça c'est très clair. Et elle nous met en garde aussi contre le danger de tordre les Écritures. Et donc, même s'il y a des choses plus importantes que d'autres, tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole est important. Et si j'ai choisi ce texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pour la prédication réellement, c'est pour parler de plusieurs choses qui doivent précéder le retour de Jésus-Christ. Et il y a bien une certitude que je crois qu'on a en tant que chrétien, c'est que Jésus-Christ, un jour, va revenir, même si on ne sait pas quand, il est certain qu'un jour il va revenir. Sortir de cette espérance, quelque part, c'est sortir du christianisme. C'est tomber, je ne sais pas, dans une philosophie, et à partir du moment où on renonce à cette idée que Christ va revenir, les autres vérités risquent d'être abandonnées rapidement. C'est une vérité certaine, Jésus-Christ qui est venu une première fois, va revenir. Je ne connais pas de chrétiens ou de groupes chrétiens organisés, vraiment qui aient jamais confessé que Christ ne reviendrait pas. Même si on prend un groupe aussi éloigné, ou éloigné dans bien des domaines que l'Église catholique romaine, eh bien, dans le credo, même dans le catéchisme de l'Église catholique tel qu'il existe actuellement, il y a l'idée que Christ va revenir. Vous pouvez prendre tous les groupes chrétiens organisés, les presbytériens, etc. C'est dans leur confession de foi, Christ va revenir un jour. Alors, c'est une vérité qui peut être plus ou moins édulcorée. C'est vrai, par exemple, dans l'Église catholique, c'est dans les textes officiels, mais ce n'est pas quelque chose qui est très présent à l'esprit. Dans d'autres églises, c'est au contraire très présent à l'esprit, peut-être parfois trop. Et là, on a un texte qui est intéressant parce que Paul écrit ici à des chrétiens de Thessalonique. Thessalonique, c'était une ville de la Grèce à l'époque. Et il leur dit au verset 1, « Nous vous demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement ébranler dans votre bon sens, ni vous alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors dans ces deux premiers versets, Paul explique un peu une de ses motivations pour écrire aux Thessaloniciens, et il veut les mettre en garde contre l'idée que le jour du Seigneur serait déjà là. Et quand on regarde un peu la Bible dans tous les sens, on regarde les expressions parallèles, le jour du Seigneur, ça parle du jour où Christ va revenir. Je crois que c'est pas Pascal qui me contredira. Donc le jour du Seigneur, c'est le jour où Christ va revenir, plus tous les événements qu'il y a autour. On est d'accord, hein. Et Paul écrit aux Thessaloniciens et leur dit, hop là, attention, faites attention, il ne faut pas vous laisser ébranler dans votre bon sens, même s'il y a quelqu'un qui vous écrit, même s'il y a quelqu'un qui vous écrit au nom de l'apôtre Paul, eh bien sachez que ce n'est pas moi qui l'ai commissionné ou qui l'ai envoyé, et faites attention, ne croyez pas que le jour de Christ soit déjà là, il y a des personnes qui veulent vous troubler, et il y a toujours eu, à cette époque, comme à travers les siècles de l'Église chrétienne, des personnes qui voulaient absolument, qui voulaient jouer les Nostradamus chrétiens et qui voulaient annoncer, ah ça y est, je sais, et vous savez pas quoi, moi je sais. C'est bien, hein, moi je le sais. Forcément, ça fait... donne une impression de supériorité, et puis on peut gagner des gens comme ça. Il y a bien sûr un des groupes les plus fameux qui a fait ça, c'est les Témoins de Jéhovah, qui ont, au fur et à mesure de leur histoire, annoncé des dates. Ça a été 1874, 1914. Après, deux ou trois autres fois, ils ont essayé. Et en plus, comme ça a été raté, 1914, c'était leur grande date. Vraiment, c'était leur très grande date. Et ils ont eu un peu de chance quand même, parce qu'en 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale qui a éclaté. Donc c'était quand même un peu de chance, ça leur a permis de se rattraper. Et donc ils ont dit, ah ben vous voyez, on ne s'est pas entièrement trompé. En fait, Jésus-Christ, bon, il est revenu, mais il est revenu spirituellement. Sans que personne ne le voie, il est revenu spirituellement, enfin il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel, quoi. Et c'est pour ça que la Première Guerre mondiale a éclaté, et depuis ce temps-là, il n'y a plus du tout... Les choses ne vont plus aussi bien, les choses sont terribles. Donc Christ est revenu de manière invisible, d'accord ? Et tous les textes qui disent qu'il reviendra de manière visible, bon, ben ça c'est escamoté, quoi. Mais donc on voit ici dans 2 Thessaloniciens où Paul doit déjà mettre en garde ses chrétiens contre de fausses espérances, de fausses prédictions concernant le retour de Jésus-Christ. Si on regarde dans la première lettre qu'il leur avait écrite, il leur a écrit deux lettres, en tout cas on a deux lettres dans la Bible qu'il a écrit à ses chrétiens de Thessalonique. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul avait déjà parlé de ce sujet du retour de Christ. Il est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Et puis il continue. Mais donc là il leur dit... Vous n'êtes pas, il parle aux chrétiens, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Donc il dit que les chrétiens quand même arriveront à avoir une certaine anticipation, non pas d'être capables de prédire ou de donner des dates, mais se rendront compte quand même qu'il y a des choses qui se passent qui font que le retour de Christ sera plus proche. Et c'est finalement ce qui reprend ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Donc pour réfuter l'idée que le jour de Christ, donc quand on revient dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour réfuter l'idée que le jour de Christ était déjà là, Paul leur dit, eh bien il y a des choses qui doivent à se produire auparavant. Au verset 3, il le dit, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. » Donc au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, ceux qui avaient dit que le retour de Christ était déjà là, il dit, « Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. » L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer à lui-même pour Dieu. Alors il y a trois choses que j'aimerais voir avec vous par rapport à ces événements qui précéderont le retour de Christ et dont Paul parle ici. Il parle d'un homme impie, d'un homme impie au verset 3. Enfin, il dit qu'il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée, donc l'apostasie, une première chose, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire. Je croyais qu'il voulait m'apporter un verre d'eau, mais non. Quelqu'un pourrait le faire. Ouais. Donc, l'apostasie, que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore Dieu, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour se faire passer lui-même pour Dieu. Donc, il parlait de l'apostasie, il parlait de cet homme impie, cet adversaire, et il est dit que cet homme va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu. Et j'aimerais voir, selon le temps qu'on a, ces trois choses. Cette action, d'accord, en premier, donc on ne va pas le faire dans le même sens que le texte, pour une raison pratique. Donc, le fait que cet homme impie, que la Bible appelle dans d'autres endroits, l'Antichrist. Dans d'autres endroits, il est dit dans l'épître de Jean, vous avez entendu qu'il viendrait un Antichrist, etc., etc. Et déjà, désormais, il y a plusieurs Antichrists. Encore une fois, ça, c'est pas quelque chose de bizarre dans la pensée chrétienne. Par exemple, Luther en son temps a appelé le pape l'Antichrist, mais même dans la théologie catholique qui précède, chez les pères de l'Église, à travers toute l'histoire, les chrétiens ont été attentifs à cette menace, cette annonce qu'un jour il y aurait cet homme impie, cet Antichrist qui paraîtrait. Ils ont beaucoup spéculé là-dessus, il y a eu Néron ou d'autres qui étaient... Donc, il est facile d'aller au-delà du texte, mais on a quand même un texte qui est là, et il est important d'en prendre compte. Et donc, j'aimerais parler tout d'abord de quelque chose qu'on m'a beaucoup dit quand j'étais jeune, c'est que cet homme impie, cet antichrist qui veut dire qu'il s'oppose à Christ ou qui veut prendre la place de Christ, il est dit qu'il va s'asseoir. Au verset 4, vous le voyez avec moi, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Ça, c'est une des choses qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va s'asseoir dans le temple de Dieu avant que Christ revienne. Alors, quand j'étais plus jeune, quoique je suis encore assez jeune, On m'a beaucoup dit, je crois, c'est la chose que j'ai le plus entendue, c'est que cet homme impie, qui serait plus ou moins comme un peu comme un nouvel Adolf Hitler ou un nouveau Staline, un nouveau Néron, quelqu'un qui aura une domination mondiale, qu'il fera en sorte qu'il y ait le temple de Jérusalem qui soit reconstruit. Les chrétiens, ces dernières décennies, ces derniers siècles, je dirais, ont prêté beaucoup d'attention à la nation juive, à son rassemblement en Israël. Et beaucoup de chrétiens ont vu dans ce rassemblement des juifs en Israël comme un accomplissement des prophéties biblique, quelque chose qui devait précéder le retour de Christ. Et c'est vrai qu'il y a, en particulier dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses, si on lit l'Ancien Testament littéralement, beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Déjà, il y a tout ce qu'on appelle le cycle mosaïque. Dans Deutéronome 28, il a toujours été dit à la nation d'Israël, quand vous désobéirez, et vraiment quand ils désobéiraient, hein, pas une petite désobéissance, mais quand ils abandonneraient la foi, quand ils abandonneraient l'Éternel, etc., ils seraient chassés parmi toutes les nations. C'est Deutéronome 28, vous pouvez le lire chez vous. Mais si, dans la détresse où vous êtes chassés parmi les nations, dans la détresse où vous êtes, vous vous repentez, vous rentrez en vous-même et vous retournez à l'Éternel, alors je vous ramènerai dans votre pays. C'est dans Deutéronome 28 et on trouve cette application. Quand Israël est à Babylone, on trouve ça dans les prophètes Ézéchiel, Ésaïe s'appuie là-dessus pour donner l'espérance aux Juifs dispersés, quand ils étaient à Babylone ou dans d'autres pays. Bien, regardez, il y a cette espérance de revenir dans votre pays. Et effectivement, les Juifs ont été plusieurs fois dispersés, il y a eu des dispersions par les Assyriens, puis par les Babyloniens, ils sont revenus dans leur pays. Qu'un cas, ils ont réussi à reconstruire, ils ont reconstruit leur temple, ce qui fait que du temps des Romains, du temps de la domination romaine, ils étaient en Judée. Hein, on connaît tous, enfin, j'espère, les films sur la vie de Christ. Et puis, même si on a lu les évangiles, c'est encore mieux. On voit que la Judée était sous domination romaine avec Pilate, etc. Puis, à nouveau, il y a eu cette grande désobéissance, le rejet du Messie. Et en l'an 70, 40 ans après la mort de Christ, on voit Israël qui est à nouveau chassé parmi les nations. Et cette fois, encore plus et pour encore plus longtemps. Donc les Juifs ont été dispersés parmi toutes les nations, jusqu'en Amérique, jusqu'aux confins de, jusqu'en Russie. Et donc on voit là cette prophétie incroyable s'accomplir. Puis il y a finalement la Shoah avec Hitler, bien sûr. Et là, la nation d'Israël qui est reconstituée en 1948. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui vont dans ce sens d'une nation d'Israël en existence quand Christ reviendra. Il suffit de regarder dans Zacharie, si vous voulez, regardez avec moi dans le prophète Zacharie, si vous trouvez. Zacharie, chapitre 12, vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 12. Alors, on va lire. Bon, Zacharie chapitre 12, je vous invite à lire le chapitre chez vous, mais là on ne peut pas tout lire. Au verset 9, à partir du verset 9, même à partir du verset 8, nous est dit: En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a qui trébuchent parmi eux, il sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Et là, c'est une prophétie incroyable, puisque ça annonce qu'un jour, le peuple juif se détournera de ses péchés, regardera vers celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un unique, sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est une prophétie absolument incroyable. Qui va dans le sens que Christ va revenir, que peut-être pas, a priori pas toute la nation d'Israël, mais ceux qui ont réchappé à un conflit tourneront les regards vers Christ et se convertiront. Et c'est écrit des centaines d'années avant que le Messie ne vienne, avant que Christ ne soit même crucifié, avant que les Juifs le crucifient. Hein. Et c'est confirmé dans l'Apocalypse, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, il est dit « Tout œil le verra ». Donc ça, c'est mauvais pour les témoins de Jéhovah, déjà. « Tout œil le verra ». Et ils se lamenteront sur lui, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Donc ceux qui l'ont percé, ben, ça n'est pas ceux qui étaient présents à la croix, mais même le peuple qui l'a percé. C'est réellement cohérent avec ce qui est dit dans Zacharie. Et dans Zacharie, toujours au chapitre 14, Zacharie chapitre 14, au verset 3, il dit « L'Éternel sortira et combattra ses nations ». C'est le même contexte de Jérusalem qui est assiégé par des nations. Donc l'Éternel sortira et combattra ses nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Vous pouvez y aller au mont des Oliviers, vous prenez votre ticket pour Jérusalem. Ses pieds se placeront sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est, vers l'ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre vers le sud. D'accord ? Donc il est dit, l'Éternel sortira et combattra, et ses pieds se placeront en ce jour sur le mont des Oliviers. Alors c'est intéressant parce que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1 des Actes des Apôtres, on voit les apôtres qui ont cette rencontre avec Christ. Et on peut le prendre dans Actes chapitre 1, si vous voulez. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Alors... Voilà, Christ leur parle, hein, Christ leur apparaît au verset 9, il est dit, Actes chapitre 1, verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » C'est Christ qui s'élève. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, » ça parle des apôtres, ils ont les regards fixés vers le ciel, « pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Donc encore ça aussi c'est mauvais pour les témoins de Jéhovah parce qu'il dit qu'il est parti de cette manière et vous allez le voir revenir de la même manière. Pas très bon. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Donc on voit Christ qui est parti de ce mont des Oliviers, et il est dit dans Zacharie que l'Éternel posera son pied sur le mont des Oliviers. Et, excusez-moi, mais en dehors de l'incarnation de Jésus-Christ, eh bien cette idée que l'Éternel pose son pied sur le mont des Oliviers n'a pas beaucoup de sens. Je sais que peut-être on peut trouver d'autres textes dans l'Ancien Testament, mais il y a quand même un grand faisceau d'évidence qui va dans le sens que Christ va revenir et qui va revenir à un endroit... bien précis. Et donc, sur cette base, essentiellement sur cette base, il y a l'idée que la nation d'Israël est revenue, elle n'est pas revenue par hasard dans son pays depuis 1948, mais que c'est une volonté de Dieu, quelque chose permis par Dieu, et aussi que la nation d'Israël reconstruira un jour son temple, et que ce temple sera profané par cet homme impie dont il est parlé, cet antichrist, ce dictateur mondial, cet homme qui va s'élever au-dessus de tous les dieux. Et donc, c'est vrai qu'il y a, peut-être qu'il y a d'autres textes encore qui vont dans ce sens, et donc il y a cette idée que ce temple qui serait profané serait le temple de Jérusalem reconstruit. Et c'est vrai que c'est possible, et je sais que parmi les chrétiens, il y a diverses opinions par rapport à ça. Si on prend quelqu'un comme Irénée de Lyon, qui vivait vers 180 après Jésus-Christ, qui a été évêque de Lyon, ben, Irénée de Lyon, il en parle, il dit, oui, c'est le temple de Jérusalem qui sera reconstruit, qui sera profané par l'Antichrist. Si on voit à l'époque, ça n'a jamais été une idée oubliée parmi les chrétiens, hein, cette idée qu'il y aurait, en tout cas, cette apparition de l'Antichrist. Mais si on va à l'époque de la Réforme, eh bien, peut-être c'était un peu de pragmatisme, mais Luther a dit, par exemple, forcément, il fallait bien qu'il dise quelque chose, il a dit, mais c'est le pape qui est l'Antichrist. C'est le pape qui est l'Antichrist, et ce pape s'est assis dans le temple de Dieu qui est l'Église, et il a séduit l'Église. Il a séduit l'Église, et l'Église doit s'affranchir de ce joug du pape. Et c'est pour ça que dans les grandes confessions protestantes, on trouve cette idée, dans les confessions de Westminster ou autres, réformés baptistes ou autres, on trouve cette idée, mais c'est le pape qui est l'Antichrist. Et c'est vrai que c'est peut-être plus difficile à maintenir aujourd'hui que le pape soit l'Antichrist. Alors, encore une fois, on risque de discuter. Mais en tout cas, c'est une idée qui est quand même plus abandonnée, surtout qu'il est dit que cet Antichrist sera un homme impie. Alors, c'est vrai que en tant que chrétien, on trouve que dans la papauté, il y a des choses insuffisantes. Mais quand on est confronté à des questions comme aujourd'hui, on est confronté au mariage homosexuel ou à toutes les questions bioéthiques, etc., etc., et on voit que finalement, même s'il y a une théologie vraiment déficiente sur d'autres points, bah, est-ce qu'ils sont vraiment impies à ce point-là ? Alors peut-être pas ces quelques derniers papes. Mais en tout cas, c'est peut-être difficile à maintenir. Mais donc il y a cette possibilité, pour moi aussi bien réelle, que cet Antichrist séduira l'Église et d'une certaine manière aura une influence sur l'Église et qu'il, d'une manière un peu allégorique, s'assiera dans le temple de Dieu. C'est peut-être un peu difficile à maintenir de premier abord, mais il est vrai que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand le Nouveau Testament parle du temple de Dieu, il parle de l'Église. Et on peut voir deux passages par rapport à ça. 1 Corinthiens 3:16. Où Paul écrit ici aux chrétiens de Corinthe et leur dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Puis 2 Corinthiens 6:16. 2 Corinthiens 6:16. Donc là, Paul met en garde les Corinthiens contre l'idolâtrie. Il leur dit « Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. » Donc là, Paul dit clairement, nous sommes le temple de Dieu. Donc alors pourquoi est-ce qu'il dirait aux Corinthiens, ben, nous sommes le temple de Dieu, et que quand il parle aux Thessaloniciens, il parlerait du temple de Dieu en ayant en vue le temple reconstruit à Jérusalem? C'est vrai qu'il y a de la force dans les deux interprétations. Les deux interprétations paraissent réellement possibles. On peut encore voir dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 19 à 24, on a la femme samaritaine qui s'approche de Christ. Et donc, Christ dit au verset, chapitre 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » Donc là, Christ dit clairement que les vrais adorateurs, à partir de la Nouvelle Alliance, eh bien, ils adoreront le Père en esprit et en vérité, et que ce sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Donc, quand même, il y a cette idée qui est aussi très forte, que le temple de Dieu, c'est l'Église. Et finalement, ce n'est pas une question facile à trancher, en tout cas pour moi. Et il est possible aussi qu'il y ait une double interprétation. Il est possible que le temple de Jérusalem soit vraiment reconstruit. Mais il semble aussi évident dans la Bible que l'Antichrist, quelque part, séduira l'Église, entre guillemets, influencera l'Église, et que peut-être, quelque part, il s'assiera dans le temple de Dieu. Paul disait aux Corinthiens, « Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Et il y a peut-être qu'il y aura un double accomplissement de cette prophétie. Maintenant, c'est le temps qui révélera ces choses. Mais en tout cas, il est une chose certaine, c'est que cet homme, cet antichrist, séduira l'Église et qu'il aura une influence sur l'Église de Jésus-Christ. Cet homme, nous dit la Bible, sera un impie. Il sera un impie. Si on revient dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Alors, j'arrive plus à le retrouver. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. On va le relire, hein, puisque c'est le texte qui nous intéresse, au verset 3. Donc on va se concentrer sur le verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » Ok, il y a toujours le danger pour l'Église d'être séduite. « Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. » Et il est possible qu'effectivement cet antichrist se fera passer pour une partie de l'Église comme Dieu. Alors comment est-ce que ça ce serait possible? Comment est-ce que ça ce serait possible? Ce serait possible face à une Église qui aurait une théologie déficiente. Et, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou avant la Seconde Guerre mondiale, il y a tout ce qu'on appelle le protestantisme allemand. Protestantisme allemand, les libéraux allemands, qui avaient redéfini la personne de Jésus-Christ. Qui avaient redéfini la personne de Jésus-Christ et qui avaient dit, oui, toutes les formules traditionnelles sur Christ, qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il s'est incarné dans la Vierge Marie, etc. Non, non, tout ça, c'est un peu des pensées que les premiers chrétiens avaient, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne convainc plus personne. Donc Jésus-Christ, c'est juste quelqu'un qui avait un sens supérieur de Dieu, en qui, c'est vrai, il y a un Dieu qui existe quand même, et il avait un sens supérieur de Dieu, c'était un homme, juste un homme. Il n'est pas né dans la Vierge Marie, ça c'est des superstitions. Mais il avait ce sens supérieur de Dieu. Et en fait, ils attendaient, ce qu'ils appelaient ces théologiens allemands, libéraux, c'est ils croyaient que Dieu se révélait dans l'histoire à travers plusieurs moments. Dieu se révélait à travers plusieurs événements, plusieurs moments, plusieurs grands personnages. Et quand Adolf Hitler est venu, eh bien, certains se sont dit, voilà, c'est une forme de révélation de Dieu. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, parce que dans un premier temps, certaines de ces personnes ont vu quelqu'un, en Hitler quelqu'un qui allait faire renaître la grandeur de l'Allemagne, que l'Allemagne était d'une grandeur incroyable. Ils ont vu aussi comme un rempart contre le communisme. Donc cet Hitler, parce que Hitler parlait de Dieu, il faut savoir qu'il parlait de Dieu, hein, il invoquait Dieu, et même après son attentat, il a dit, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Incroyable, hein. Donc pas le Dieu de la Bible, mais il a fait sa propre conception qui vient des philosophes allemands, de Hegel et d'autres choses. Et donc il voyait cet homme comme un rempart contre le communisme, comme le communisme c'est dangereux, ça a persécuté les chrétiens, et il voyait finalement comme Dieu qui avait suscité cet homme, bon, c'était peut-être pas Jésus-Christ, hein, et il voyait comme une révélation de Dieu à travers l'histoire, une intervention de Dieu à travers l'histoire. Et ils ont été absolument bernés, bien sûr. Heureusement, ce n'est pas tous les protestants allemands, mais c'était des protestants allemands libéraux qui remettaient les vérités chrétiennes une à une, ils le remettaient en cause. Et Hitler, eh bien, il a nommé un chancelier parmi ces gens qu'on appelle des chrétiens allemands, et même il rejetait tout l'Ancien Testament. Donc finalement, ils en étaient arrivés au bout de leur rejet, et ils sont tombés dans les bras d'Adolf Hitler. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui rejettent beaucoup de choses. Qui, par exemple, il y en a qui sont prêts à procéder à des mariages homosexuels, etc., etc. Et qui rejettent beaucoup, beaucoup de choses. Et ce ne serait pas étonnant, qu'un jour arrive, et peut-être même dans l'Église catholique, qu'un jour arrive, il y aurait cette idée, ben oui, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui avait l'esprit christique présent en lui très fortement. Mais on peut tous avoir un peu cet esprit christique. Vous savez, c'est dans le New Age qu'on voit ça. Cet esprit christique présent en nous. Et que le jour où cet antichrist dont nous parle la Bible va se présenter, ils vont dire, ben oui, c'est quelqu'un qui a l'esprit christique présent en lui. Et ça, c'est tout à fait quelque chose de possible quand on considère la théologie libérale protestante. C'est un peu pour faire une belle synthèse avec le New Age et autres. Mahomet, finalement, c'est peut-être quelqu'un qui avait eu aussi des révélations de Dieu, et Bouddha avait eu des révélations de Dieu. Et un jour, il y aura peut-être ces gens qui vont dire, ben oui, cet homme, il avait l'esprit christique présent en lui. Mais cet homme dont Thessaloniciens nous parle, nous est dit qu'il sera un homme impie, qui sera un homme impie. Et le texte grec nous dit l'homme anomos, c'est-à-dire l'homme sans loi. L'homme sans loi. Et c'est vraiment aussi quelque chose que l'on voit de plus en plus, l'abandon de la loi de Dieu. L'abandon de la loi de Dieu dans la société. Ben, elle aura un jour pour résultat l'arrivée de cet homme sans loi et qui changera le bien en mal. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de tout ce qui est l'euthanasie. L'euthanasie, c'est fait pour délivrer les gens qui souffrent. Et, bon, c'est vrai qu'il y a une souffrance en fin de vie, il y a quelquefois des soins palliatifs. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais il y a des personnes qui pourraient voir, qui voient aujourd'hui dans le suicide des gens, le suicide assisté, comme vraiment quelque chose de formidable, comme quelque chose qu'il faut célébrer. Il y a ce coureur belge, un champion d'athlétisme belge, qui a récemment s'est réuni avec ses amis avant de recevoir l'injection. Il a dit, c'est la plus belle journée de ma vie, donnez-moi l'injection et donnez-moi la mort. Et de plus en plus, il y a cette idée que des choses qui étaient aberrantes pendant un temps, aujourd'hui, c'est formidable. Je sais qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, un homme, un docteur, qui accomplissait des avortements, ce qu'on appelle des avortements tardifs aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à 25, 26 semaines, ou quasiment jusqu'à la date d'accouchement. Et cet homme disait, moi j'en vois, C'est vrai, c'est dur, c'est terrible, c'est très difficile pour moi d'accomplir ces actes, mais je sais que j'envoie ces bébés au ciel. Voilà, donc professe une certaine idéologie. Voilà. Et donc on appelle le bien mal, et ce qui devrait être ce qui est finalement terrible, parce qu'on n'accompagne plus les gens qui souffrent, on tue des bébés dans le sein de leur mère, etc. Ou même Barack Obama. Prenez Barack Obama. Peut-être l'exemple magistral. Aux États-Unis, Barack Obama est quelqu'un, si vous avez suivi ces deux élections, qui professe croire en Dieu, qui professe être chrétien. Et j'ai même été réuni pour un débat dans une église évangélique avec le dernier candidat qui était John McCain, et il parlait de manière très convaincante de Dieu et de sa foi en Dieu. Et pourtant, cet homme, quand on gratte un peu les choses, a une conception de Dieu absolument incroyable. Je le voyais l'autre jour dans un talk show, une émission de télévision. Et il était avec une présentatrice qui est une homosexuelle bien connue, bien déclarée. Ça fait partie de son talk show de faire connaître l'homosexualité. Et Barack Obama était l'invité, tout ça. Il disait, oui, mais vous savez, il y a encore des gens, des chrétiens aux États-Unis qui résistent. Mais nous, dans notre dénomination, les pasteurs marient les homosexuels. Hein, vous voyez, c'est bien. Ce même Barack Obama, quand il était sénateur de l'Illinois, s'est opposé à un acte de loi de l'État de l'Illinois qui était The Born Alive Infant Act. Born Alive. Born Alive, ça veut dire né vivant. D'accord ? Donc, que les enfants qui survivaient à une procédure d'avortement, parce que ça s'était produit des enfants qui survivaient et qui agonisaient pendant quelques heures à des procédures d'avortement, eh bien, il y avait le Sénat de l'Illinois qui voulait que la loi puisse secourir ces enfants, qu'ils puissent être sauvés. Barack Obama s'est opposé à cette loi. Il a dit oui, mais ça compliquerait les choses, etc. Ça compliquerait les choses pour les docteurs, compliquerait les choses pour les vrais parents. Et c'est pourtant quelqu'un qui est célébré dans le monde entier comme quelqu'un de formidable, mais qui va vraiment à rebours de toute la révélation chrétienne. Et donc, on ne doit pas quelque part s'étonner qu'un homme sans loi, puisse un jour être célébré et même séduire dans une certaine mesure les chrétiens. Quand des gens sont pris par des dynamiques de groupe, ils sont prêts à renoncer à tout ce qu'ils ont appris ou autre. En tout cas, la Bible nous dit qu'il y aura cet homme impie, ce fils de la perdition qui se présentera, et tout cela sera précédé. Donc il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie ? Eh bien, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de tout ce qui nous a été dit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Je suis frappé, personnellement, lors des remplacements que je fais dans les écoles catholiques ou autres, eh bien, je suis frappé de deux choses. Déjà, je suis frappé de certaines vérités très justes, je suis pas d'accord avec tout, bien sûr, mais qu'on peut trouver, par exemple, dans les catéchismes de l'Église catholique, le dernier catéchisme de l'Église catholique, même sur la fin des temps, eh bien, il y a des choses vraiment très, très justes, je ne peux pas vous les lire maintenant, très justes qui sont dites. Ça paraît peut-être incroyable, mais l'Église catholique a conservé une eschatologie, donc une pensée des événements qui se produisent avant le retour de Christ, en fait, très, très juste, parfois plus juste que les protestants, ou peut-être parfois plus juste que les protestants. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est l'ignorance qu'ont la majorité des catholiques de ces choses. L'ignorance incroyable qu'il y a de ces choses. Et c'est vrai aussi dans les églises protestantes. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'Église protestante unie de France, qui vient de réunir les luthériens et les réformés, et il y a un abandon incroyable de l'héritage, un questionnement incroyable de la Bible. Et quand on questionne la Bible, eh bien, on peut se laisser entraîner dans toutes sortes de choses absolument incroyables. Et devenir un adepte de Barack Obama, il y a de ces personnes, si vous leur dites Barack Obama, c'est quelqu'un de très mauvais, en fait. C'est quelqu'un de très très mauvais, même il fait la promotion de la NSA qui permet d'écouter tout le monde au monde entier. Vous allez dire c'est bien, c'est pour lutter contre l'islam. Alors c'est vrai, c'est bien d'un côté. Mais on voit ces choses séductrices qui se mettent en place. Mais si vous dites ça à beaucoup de protestants, ils vont dire oui, bon, on ne sait pas trop, bien sûr, il y a la Bible, mais c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Ils avaient leur pensée sur Dieu, ils avaient leur pensée sur Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, on a notre pensée sur Dieu, on a notre pensée sur Jésus-Christ. Et donc, on voit toutes ces choses qui arrivent, qui se mettent en place un peu à la fois. Alors, je vais terminer. Et bien sûr, le texte n'est pas pleinement exposé, loin de là. Mais je voudrais terminer par un autre texte dans 2 Thessaloniciens. Alors, c'est 1 ou 2 Thessaloniciens, tant que je le retrouve. Voilà, 2 Thessaloniciens au chapitre 4. Pardon, 2 Timothée chapitre 4. C'est le manque d'eau. Il nous est dit, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et c'est ce qu'on voit arriver de plus en plus. Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai déjà vu tous les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Mais nous savons que Christ va revenir. Quand nous voyons toute l'anomie morale, toute l'impiété morale, on voit que c'est quelque chose qui annonce. Israël peut être de bien des manières aussi quelque chose qui annonce le retour de Jésus-Christ. En tout cas, il est assez clair que les Juifs seront dans leur pays quand Christ reviendra. Il y a la question du temple aussi. Et puis, il y a aussi cet abandon de la foi progressif des chrétiens qui est aussi, pour moi, un des signes du retour de Christ. On pourrait mentionner le mariage homosexuel, etc., etc. Mais cet abandon de la foi, cette difficulté que les chrétiens ont à maintenir leur foi dans la société d'aujourd'hui et parfois aussi le danger où nous avons la difficulté d'affirmer notre foi qui sont certainement des choses qui annoncent le retour de Jésus-Christ, qui annoncent la proximité du retour de Jésus-Christ.